À Thiot, les exactions se poursuivent. Un cheval a été abattu la nuit dernière dans la commune. Marie-Pierre Goyetch, nouvelle présidente du Parti travailliste. Sans surprise, elle a été désignée par les militants à l'issue du 12e congrès du parti qui se déroulait à Nouméa. Grand succès pour le Calédonian Show du Forte Rimba. 600 visiteurs ont fait le déplacement et ont profité de toutes les activités que proposait aujourd'hui l'association Marguerite. En métropole, la colère des agriculteurs qui monte et le retour des blocages. Ces derniers estiment ne toujours pas avoir récolté le fruit de leur manifestation de l'hiver dernier. Le sport, du rugby, le 15 de France signe un exploit. Les Bleus ont fait plier les All Blacks, victoire 30-29. Et la sélection calédonienne de football conclut la phase de poule des éliminatoires au Mondial par un match nul face aux Fidjiens. Bonsoir à tous, bienvenue dans notre journal Info Weekend pour tout connaître de l'actualité en Calédonie, dans la région Pacifique et dans le monde. À la une de l'actualité, la situation qui reste toujours tendue sur la commune de Thiot. Une famille sur place reste régulièrement prise pour cible par des exactions. La nuit dernière, c'est un cheval qui a été abattu, Michael Juneski.
Oui, des individus qui sévissent toujours sur place et qui multiplient les méfaits dans la commune. Thiot reste l'une des zones les plus sensibles du territoire. Après avoir vu des émeutiers brûler de nombreux magasins et des outils miniers. Et les exactions continuent donc contre des habitants. Vous le disiez, la nuit dernière, ils s'en sont pris un cheval abattu par arme à feu. Et ce n'est pas la première fois, selon cet habitant qui a choisi de garder l'anonymat, que ces individus s'en prennent aux animaux et notamment aux chevaux.
Ah ben toujours, c'est dans la nuit de hier, ce matin, ils m'ont tué un cheval. Ras-le-bol, il n'y a plus d'autorité. Le cheval, ben j'ai pas. C'est la nuit, hein, ça s'est passé. Ce matin, j'ai préparé la ration de tous mes chevaux et puis ben j'étais pas là, hein, et puis c'est tout. Après j'ai trouvé, il était mort dans la plaine. Ben par fusil, hein, avec une balle. Et un mois et demi, j'en ai perdu un bon aussi. Ah là là. Et puis il y en a deux qui ont été volés. Ah c'est fini. Depuis le mois de mai, hein, c'est pareil, hein. Ils ont pris possession de la propriété, le braconnage et puis tout, ça n'arrête pas, c'est tous les jours. Dégueulasse quand on arrive là. Enculé de blanc, bâtard et puis ça, ben, ça fait 5 mois, je vais même pas au village de Thiot. C'est pas le premier qui me tue. Ouais. Alors à chaque fois on prend des photos de porter plainte, mais pourquoi? Pour rien du tout, les gendarmes ne sortent pas de leur brigade à Thiot, alors ça sert à rien du tout.
Une plainte pour ce nouveau méfait devrait être déposée dans les prochains jours, même si les personnes vivant sur la commune s'inquiètent encore d'une situation sensible qui perdure. Un acte qui ne sera toutefois pas sans suite auprès de l'opinion publique des Calédoniens, espèrent désormais sur place les familles de Thiot, toujours victimes de ces exactions.
Au chapitre politique, la fin du 12e congrès du Parti travailliste. Les instances du parti ont été renouvelées avec Marie-Pierre Goyetch qui en a été élue présidente aujourd'hui. Le rendez-vous se tenait durant 2 jours à la Vallée du Tir à Nouméa, Michael.
Les 2 autres candidats à la présidence s'étant désistés, à savoir André Forest et Kaouch Kaouch, l'ancienne présidente de l'USTKE a sans surprise été désignée pour reprendre les rênes du Parti travailliste à l'âge de 68 ans et 2 ans après la disparition de son fondateur. Louis Cotraillou-Regueil. Beaucoup d'émotions lors de ce congrès, mais également des positions réaffirmées qui s'alignent désormais sur la voie du bureau politique du FLNKS, bien que les décisions du Front et de l'Union calédonienne soient contestées par le Palika et l'UPM. Des motions particulières ont notamment été adoptées à l'issue de ce 12e congrès du Parti travailliste. Le bureau politique du FLNKS sera le seul interlocuteur en ce qui concerne les discussions sur l'avenir, selon le Parti travailliste. Il demande également la libération des responsables de la CCAT, considérés encore une fois comme des prisonniers politiques, dont Christian Théin, porté comme président du FLNKS par l'UC et le RDO, et l'accession à la pleine souveraineté comme préalable à toute discussion. Mais le Parti travailliste doit avant tout se restructurer, avec évidemment les prochaines élections provinciales dans un coin de la tête. On écoute sa nouvelle présidente, Marie-Pierre Goyetch.
Les objectifs, d'abord, en premier, on va devoir continuer de structurer le parti. Hein. Il a été structuré, bien entendu, il y a de nouvelles candidatures, hein, qui se positionnent, et notamment de la jeunesse aussi. Hein, le parti, il y a des jeunes qui prennent des responsabilités au sein du parti. Et le parti, aujourd'hui, est dans le FLNKS. Donc, on continuera justement de tenir compte du congrès de Pagou. Hein, ce qui s'est passé à Koumac, c'est notre ligne de conduite, mais également le parti aujourd'hui veut conserver aussi sa singularité. On est au sein de la structure du BP-FLNKS. On va porter justement aussi la feuille de route de Pagou, mais aussi notre vision des choses. Aujourd'hui, on voit qu'il y a deux partis qui sont toujours dans le FLNKS, mais qui ne prennent pas aux différents travaux du FLNKS. Un moment, on se rencontrera, on se parlera, on échangera, on se retrouvera, puisque la finalité, elle est la même. C'est la pleine souveraineté.
On retiendra encore du renouvellement des instances du Parti travailliste, que Patrick Tara a été désigné premier vice-président, René Kaoudjé deuxième vice-président, Gilles Naillette troisième vice-président. Enfin, de nombreux hommages ont été rendus par les militants du parti à Louis Cotraure-Gueye, donc décédé en octobre 2022 en métropole des suites d'une longue maladie.
RRB 17h51.
Oui, et l'heure de voir de quoi la semaine sera faite, Mickaël.
On retiendra de la semaine qui débute la poursuite de la deuxième session d'assises de l'année. Lundi, c'est une affaire de viol sur mineur qui sera jugé en appel. Mardi et mercredi, c'est une affaire de viol et violence sur conjoint qui sera jugé également en appel. Jeudi et vendredi, ce sont deux cousins qui comparaîtront pour coups mortels. Ils avaient battu à mort un membre de leur famille lors d'une fête particulièrement arrosée. Ça s'était passé sur la plage de Magenta en juin 2021. Cette semaine sera également marquée par les nombreuses initiatives organisées dans le cadre de la Semaine européenne de réduction des déchets. Mardi, le gouvernement organise la deuxième biennale de la construction au Théâtre de Lille. Ouvert à tous, elle portera sur deux thèmes, la reconstruction et la décarbonation. Mercredi, ce sera la journée du droit des enfants. Ce même jour, les élus du Congrès se réuniront en séance publique pour examiner le projet de loi du pays relative au domaine public de l'eau et à la protection de la ressource en eau. Le week-end prochain, au chapitre politique, l'Union calédonienne devrait réunir son congrès à Canala. Enfin, c'est dimanche prochain qu'aura lieu la Nouméenne, une grande marche contre le cancer du sein au profit de la Ligue contre le cancer.
Notez que le député européen RN Nicolas Bay, arrivé en Nouvelle-Calédonie ce vendredi, sera notre invité du matin demain à 7h30. Il était déjà venu sur le territoire il y a un an. Lors de son séjour, il doit avoir divers entretiens pour évoquer la question institutionnelle et le dégel du corps électoral, la situation sécuritaire ou encore les conséquences économiques des émeutes. Nicolas Bay, invité du matin sur RRB, c'est demain à 7h30. Et à la fin de ce journal, ne manquez pas la rediffusion du magazine Transparence. C'est Virginie Rufnak, la chef de groupe du Rassemblement au Congrès de la Nouvelle-Calédonie et première vice-présidente du Congrès, qui était vendredi midi l'invitée d'Elisabeth Noir. Une émission également disponible en podcast audio et vidéo sur notre site internet rrb.nc. Dans l'actualité festive, forte affluence au Fort Terimba aujourd'hui. Plus de 600 visiteurs se sont déplacés pour le Calédonian Show à Moindou, Charlotte Coulson.
L'association Marguerite organisait une journée d'animation qui replongeait les Calédoniens dans leur histoire au siècle dernier. Expositions photos, balades en voitures anciennes et spectacles costumés ont rythmé cette journée sur un lieu historique et emblématique du territoire. Manu Cormier, membre de l'association Marguerite, se dit très satisfait de l'organisation.
Très bien, tel qu'on l'espérait, c'est-à-dire que le public était au rendez-vous. On savait que ça n'avait rien à voir avec des spectacles sans lumière traditionnels, mais on a eu plus de 600 spectateurs, donc c'est vraiment satisfaisant. Et puis, on a joué avec la chance, hein, c'est-à-dire que quelques gouttes de pluie avant, après le spectacle, mais bon, la météo a été de notre côté, donc là aussi. Et puis, c'était le rendez-vous, le retour hein, pour les figurants également, hein, c'était de pouvoir se retrouver et pas briser le lien, que ça soit entre nous et avec le public. Et puis, le fait de passer en journée, ça a été une nouveauté. Hein. Ceux qui étaient habitués à venir voir Terimba de nuit ont eu un regard différent. Et ça permet également de proposer des animations avant le spectacle. Hein. C'était le cas des expositions temporaires, mais également toutes sortes de promenades. Il y a eu une exposition de véhicules anciens et les gens pouvaient faire des petits tours avec. Et ça, ça a eu un énorme succès. C'était les petits qui découvraient et puis les anciens qui se remémoraient le temps où c'était leur voiture.
Et s'il est encore difficile de savoir si un spectacle son et lumière sera possible l'année prochaine, l'association Marguerite se dit prête à organiser un nouveau Calédonian Show en 2025.
Et Charlotte place maintenant à la 9e édition du Spirit Festival qui s'est achevée cet après-midi à 17h. Depuis hier, plus de 60 professionnels du bien-être sont réunis au Château Hagen.
Un rendez-vous pour les personnes souhaitant se ressourcer et se détendre. Sur place, les visiteurs ont pu participer à de nombreuses activités, gratuites ou payantes, telles que des ateliers d'automassage, massage, des cours de pilates ou encore des conférences sur le bien-être. À côté de ces divertissements, de nombreux artisans présentaient leurs produits locaux et naturels, tandis que d'autres proposaient par exemple des massages. C'était l'occasion pour eux de redonner un peu de visibilité à leur activité, parfois assez spécifique. On écoute leurs témoignages.
Bonjour, moi c'est Julie. Je suis la gérante du coup et la créatrice de la bulle de BBNC. Ça fait déjà 3 ans que je fais le Spirit Festival. Et c'est vrai que c'est encore un petit peu timide. Les gens connaissent pas trop, donc c'est vrai qu'ils sont souvent plus surpris de nous voir sur un stand. Du coup, c'est vrai qu'on n'a pas encore beaucoup de monde. Mais on essaye justement, dû à ces salons, de se faire connaître un peu plus.
Ben, je suis Gilles Création, je suis lapidaire. Et je travaille les pierres de Nouvelle-Calédonie. Ça fait qu'un an que j'ai monté ma entreprise, donc je participe aux salons qui sont présents et voilà, on voit ce que ça donne.
Je m'appelle Elodie, alors c'est le stand Eloa Massage et je suis spécialisée en massage Deep Swedish Massage, le massage suédois, et en réflexologie plantaire faciale et palmaire. Le Spirit Festival, en général, c'est bah, comme tous les salons, un moyen d'être plus visible, donc d'attirer du monde. Donc on a eu pas mal de personnes au stand, effectivement. Mais en soi, que ça se passe cette année au Château Hagen en tant qu'exposant, on est hyper content. Le spot est juste magnifique, vibrant et se prête pleinement à ce genre d'événement.
Un festival qui se tient habituellement au Parc Brûlé, mais vous l'avez entendu, il s'est déplacé au Château Hagen cette année. Un peu moins de stationnement donc pour les visiteurs, mais ça ne les a pas découragés. Un peu plus d'un millier se sont déplacés sur la journée d'hier.
Merci Charlotte Coulson. 17h56, première pause dans ce journal avant de voir l'actualité nationale et internationale. Et la colère gronde chez les agriculteurs en France. A tout de suite.
Du lundi au vendredi sur Radio Rythme Bleu, Cheyenne raconte une histoire aux tout-petits vers 19h20.
Raconte-moi une histoire avec Petit Dom, la boutique des tout-petits. Petit Dom, c'est aussi et toujours les listes de naissance, de Noël, de baptême et d'anniversaire accessibles sur Internet. Chez Petit Dom, on n'hésite plus, on y va.
La Calédonienne des Eaux vous facilite la vie. Payez directement vos factures en ligne ou demandez le prélèvement automatique. C'est simple, c'est rapide et surtout écologique. Rendez-vous au plus vite sur le site www.cde.nc. Pour vous comme pour nous sur RRB, il n'y a pas de jour sans la Calédonienne des Eaux. RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Et la suite du journal avec vous, Léana Colombo.
En métropole, quelle sera l'ampleur de la mobilisation des agriculteurs? L'ensemble de la filière prévoit de nouvelles actions. La principale alliance syndicale, celle de la FNSEA et des jeunes agriculteurs, appelle à se mobiliser au moins jusqu'à la mi-décembre. La coordination rurale promet une révolte agricole. Les agriculteurs sont vent debout contre le traité du Mercosur, mais dénoncent également la bureaucratie et la faiblesse des revenus. En Occitanie, le monde paysan se prépare à manifester. Résultat dans les fermes, c'est le branle-bas de combat à quelques heures des premiers rassemblements. Reportage du correspondant d'Europe 1 en Occitanie, Alexis Bourdon.
Dans cette exploitation céréalière du Gers, la machine à trier les grains tourne à plein régime. 3 générations d'agriculteurs travaillent près de 600 hectares avec un objectif: finir au plus vite les travaux pour sortir manifester. Laurent, le père qui n'est pas un habitué des rassemblements, pourrait rejoindre un cortège.
Moi, je suis vraiment en colère. Les politiques ne nous écoutent même pas. Ils nous prennent pour des imbéciles. On fait nourrir la planète. Et on vend quoi, notre matière première? On la vend au prix de quoi? De que dalle, rien du tout. Moi, je dis, c'est une honte.
Près du tracteur, son fils Dorian est engagé au sein de la coordination rurale du 32. Lui aussi sera dans les rues mardi pour s'opposer à un accord de libre-échange entre l'Union européenne et l'Amérique latine.
Quand on va dans n'importe quel supermarché, les produits d'ailleurs, eh bien, ils sont vendus à des prix rabais, sauf que le consommateur français, il regarde généralement le prix. Donc au bout d'un moment, la concurrence déloyale, le Mercosur, c'est peut-être pas une bonne chose qu'il soit signé avec toutes les importations qui sont annoncées.
Déterminés, les agriculteurs préviennent, ces manifestations pourraient être le début de plusieurs mois de mobilisation.
En Ile-de-France, 100 de tracteurs est déjà présent sur place et entendent bien occuper la route en direction de Paris à partir de ce soir pour nous. Et notez ce rendez-vous sur notre antenne. Cette semaine, l'invité du grand rendez-vous européen, CNews Les Échos, sera Marc Ferracci, le ministre délégué chargé de l'industrie en France. Une émission que vous retrouverez sur RRB demain soir, juste après Info Soir, votre grand journal de 17h45. À l'étranger, le super typhon Mani balaye aujourd'hui les Philippines, laissant dans son sillage arbres déracinés, lignes électriques couchées et toitures de tôle arrachées. Pour le moment, aucune victime n'est à déplorer dans un archipel en proie à sa 6e tempête majeure en un mois. Mani soufflait encore des vents mesurés à 185 km/h après avoir touché terre hier dans la province orientale du pays. L'agence météorologique avait rapporté des pointes à 325 km/h. Plus de 650 000 personnes ont fui leur domicile à l'approche de ce super typhon, qualifié de potentiellement catastrophique et mortel par l'agence. En Europe de l'Est, c'est une déclaration qui a fait réagir. Volodymyr Zelensky dit vouloir la fin de la guerre en 2025. Dans une interview diffusée cette nuit pour nous, le président ukrainien évoque une situation vraiment compliquée sur le front Est, où l'armée russe avance rapidement. Donc pour lui, une fin de la guerre est indispensable, d'autant plus avec l'arrivée prochaine de Donald Trump à la Maison-Blanche, qui souhaite stopper les aides financières versées à l'Ukraine. Toutefois, il existe quelques lignes rouges pour Volodymyr Zelensky, que nous rappelle Nicolas Tenzer, enseignant en géostratégie à Sciences Po Paris.
Il y a quand même des limites dans ce que le président Zelensky a déclaré. Il a dit clairement qu'il n'y aura pas de négociation territorial, ça, ce n'est pas possible. Pas question non plus d'absoudre les crimes de guerre, crimes contre l'humanité ou de génocide commis par la Russie. Et puis, le président Zelensky compte aussi de plus en plus sur les Européens. Et on voit d'ailleurs les Européens aujourd'hui, même si c'est encore très insuffisant, se muscler pour essayer autant que possible de compenser le trou que pourraient laisser les États-Unis.
Nicolas Tenzer interrogé par Wilfried De Villers pour Europe 1.
RRB 18h01.
Retour en métropole et à peine sorti et déjà critiqué ou en tout cas moqué, le dictionnaire de l'Académie française se met à la page avec 21 000 nouveaux mots. Parmi les petits nouveaux, on retrouve wokisme, zadiste ou encore vegan. Un collectif de linguistes dénonce une méthode de travail obsolète et une vision passéiste de la langue. Nina Pavan est allée rencontrer des passants à Marseille pour Europe 1 et elle a recueilli leur réaction.
Est-ce que vous connaissez l'expression « attendre jusqu'à la Saint-Glinglin » ? Vous utilisez cette expression, vous, ou pas ?
Oui, ça m'arrive, oui.
Est-ce que vous savez qu'elle est rentrée cette semaine seulement dans le dictionnaire de l'Académie française ?
Ah, pas du tout.
Est-ce que je peux vous en proposer quelques-uns ? Vous me dites si vous connaissez.
Allez-y.
Il y a des mots comme « zadiste ».
Oui, c'est les zad.
Comment vous le définiriez-vous ?
Des bons à rien.
Votre avis sur le fait que ça rentre dans le dictionnaire immortel de la langue française ?
Non, je suis pas d'accord.
Et le fait de le définir, de l'ancrer dans le marbre ?
Non, c'est pas nécessaire.
Il y a aussi des mots comme tartempion, est-ce que vous connaissez ?
Oui.
Le wokisme, est-ce que vous savez ce que c'est ?
Non.
Donc bonne chose que ça rentre dans le...
Au moins on saura ce que c'est, on aura des explications.
Wokisme.
Vous pensez réellement qu'un type comme moi pense que c'est bien de mettre wokisme ? On s'en fout.
Dernière chose, il y a beaucoup de mots qui sont féminisés. Par exemple, viticultrice.
Je pense que c'était dans le langage courant de tous les jours. Une viticultrice, c'est pas trop gênant, c'est juste féminiser quelque chose. Enfin, comment vous dire ? C'en est en folie. Mais tout le monde s'en fout, quoi.
Et voilà, des réactions recueillies par Nina Pavan pour Europe 1. 18h03, deuxième pause dans ce journal, avant de voir tout le sport.
Des problèmes de termites, de bois, de sol ou d'insectes rampants? Pensez Flic Pest Control. Depuis 40 ans présent sur le territoire, Flic Pest Control, c'est le numéro 1 de la désinsectisation et de la lutte anti-termites. Traitement par pulvérisation, perçage et injection, épandage ou pose de piège. Flic Pest Control, 75 rue Arnold Delay à Wemo. Un numéro 28 94 20.
Chez Sima Quincaillerie, à partir du 1er novembre, le combo pack Sima Shin Makita 18 volts LXT avec deux batteries, un chargeur et un sac de transport est vendu 144 900 francs, dans la limite des stocks disponibles. Plus d'infos sur simac.nc, à Nouméa, Carrefour du 4e et à Koné, lotissement Katéviti. Sima Quincaillerie, tout le monde s'y retrouve.
Tout le sport en trois lettres, RRB.
La suite du journal et tout le sport, Léana Colombo.
Et à la une du sport, l'exploit du 15 de France de rugby. Les Bleus ont triomphé des Néo-Zélandais pour la deuxième journée de la tournée d'automne, Michael Gineski.
Les Bleus ont fait plier les Blacks. Victoire 30-29 au bout du suspense. Un match de référence pour des tricolores longtemps malmenés et qui ont dû s'en remettre à de solides appuis défensifs pour inverser la vapeur et s'imposer avec notamment 3 essais inscrits contre 2 pour les Néo-Zélandais qui restaient jusqu'à présent invaincus depuis le début de leur séjour en Europe. C'est un 3e succès de de suite pour les Français face aux All Blacks. Pourtant, le capitaine des Bleus, Antoine Dupont, relativise. C'est une belle victoire, mais ce n'est pas un titre.
Cette Coupe du Monde, nous, on n'en parle plus. On est sur une dynamique complètement différente et on regarde vers le futur, vers ce qui nous attend. Gagner des matchs comme ça, c'est toujours important, fondateur, mais c'est pas une fin en soi. Aujourd'hui, c'est pas un titre, on n'a rien gagné. On gagne un match important contre une très belle équipe. On va pouvoir construire et s'appuyer sur ça pour la suite, mais dès demain, on va basculer sur l'Argentine qui va arriver très vite. C'est une chose d'accompli, mais pas une fin en soi.
Les Bleus comptaient dans leur rang les Calédoniens Peato Maovaka, qui s'est encore illustré, Romain Taofifénois, qui a en revanche dû sortir sur protocole de commotion alors qu'il était prêt à en découdre avec les Néo-Zélandais. Yoram Moefana aussi a participé à ce succès des Bleus. Prochain rendez-vous de l'équipe de France, ce sera samedi prochain contre l'Argentine.
Du football, et c'est demain que l'équipe de France affrontera l'Italie en Ligue des Nations.
Un match avec comme enjeu la première place du groupe, actuellement occupée par l'Italie. Les tricolores sont deuxièmes. Didier Deschamps, le sélectionneur, a réaffirmé ses choix dans une compétition où il souhaite avant tout voir de jeunes talents éclore en l'absence des cadres.
On fait une Nation League où j'ai décidé de, parce que ça me semble important, de mettre des joueurs plus jeunes qui ont moins d'expérience. Évidemment, ils ne vont pas avoir le rayonnement que peuvent avoir des joueurs qui ont plus d'expérience et ça nuit certainement à l'expression collective. Mais malgré tout, on est là. Vous savez la situation aujourd'hui, l'Italie et la France sont qualifiées avant ce match-là, c'est eux qui ont la meilleure place, on sait ce qu'on doit faire et je leur ai dit aux joueurs, on doit avoir cet objectif en tête.
Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France. Le match Italie-France sera à suivre donc demain matin à partir de 6h45, heure de Nouméa.
En tennis, on connaît l'affiche de la finale des Masters de fin de saison.
Et les Masters de Turin se termineront par un duel entre l'Américain Taylor Fritz et l'Italien Yannick Sinner, numéro 1 mondial. Fritz a dominé l'Allemand Alexander Zverev en demi-finale 6-3, 3-6, 7-6. Sinner, de son côté, a écarté dans le dernier carré le Norvégien Casper Ruud. Une victoire expéditive. 6-1, 6-2.
En MotoGP, le dénouement de la saison 2024, c'est ce soir.
Avec le Grand Prix de Barcelone, qui de Jorge Martin ou de Francesco Bagnaia sera sacré ? La Sprint Race, hier, a été remportée par l'Italien Pecco Bagnaia, deuxième du classement mondial. Il est revenu à 19 points de l'Espagnol Jorge Martin, toujours leader du championnat du monde. Et ce, donc, avant la dernière course de la saison ce soir. Côté français, Fabio Quartararo avait terminé 10e, juste devant Joan Zarco, 11e. Le départ de ce Grand Prix de Barcelone de MotoGP sera donné à minuit ce soir pour nous.
Radio Rythme Bleu, les bonnes fréquences. Allez fou, c'est le 102.5.
Le sport côté calédonien et du football, la sélection termine les phases de groupe aux éliminatoires sur un match nul.
Une défaite évitée de justesse face aux Fidjiens cet après-midi à Port-Moresby. Les deux équipes se sont quittées sur un score de parité, un but partout. Mais grâce à ce résultat, les Calédoniens terminent donc premiers de leur groupe. On écoute le sélectionneur de l'équipe de Nouvelle-Calédonie, Johan Sidaner.
Nous avons fait le match que le scénario demandait. Les garçons ont fait un match énorme, plein d'abnégation, plein de ressources mentales. Et puis sur cette deuxième mi-temps, il me semble qu'on mérite vraiment de ce match nul et cette première place. On n'avait plus rien à perdre. On était mené et du coup on était deuxième. On leur a demandé d'aller puiser dans leurs ressources. Mais avec 2-3 ajustements au niveau du milieu de terrain, plus on savait que le banc de touche et les remplaçants pouvaient faire la différence.
Et les Calédoniens attendent désormais de connaître leurs adversaires pour les demi-finales de ces éliminatoires à la prochaine Coupe du Monde prévue dans 3 mois. Ils devraient éviter les redoutables Néo-Zélandais, la deuxième place du groupe B, se disputant encore entre Tahiti et le Vanuatu. Réponse demain lors des derniers matchs qui se dérouleront donc.
Le sport sur le territoire du surf avec les championnats de Nouvelle-Calédonie.
À Bouaille, une trentaine de participants étaient de la partie tout le week-end pour les championnats Longboard Ondine, Longboard Open, Shortboard Espoir. Malheureusement, la faute aux conditions météo, la compétition n'a pas pu aller à son terme aujourd'hui. Ce n'est que partie remise pour la présidente de la Ligue Calédonienne de surf, Joëlle Lebréus.
Hier, nous avons eu des conditions très difficiles et je félicite les compétiteurs qui ont été à l'eau parce que c'était vraiment très très compliqué. Pas des belles conditions, mais les compétitions ont pu se tenir. Et malheureusement, ce matin, arrivé sur le site de la compétition à Secret, on n'a pas du tout pu tenir la compétition de shortboard open. On est très contents parce qu'il y a eu énormément d'inscriptions dans les dernières semaines et puis surtout des nouveaux. Et puis, on a toujours dans l'optique aussi de commencer à travailler les Jeux du Pacifique à Tahiti en 2027, de commencer à faire une certaine sélection. Donc voilà, on espère que dans les compétiteurs qui ont concouru aujourd'hui et qui pour enfin hier et qui pourront concourir la semaine prochaine, ben on aura peut-être notre futur champion de Calédonie et surtout celui qui nous représentera aux Jeux du Pacifique en 2027.
Les championnats de shortboard open ont donc été reportés à samedi prochain, toujours à Bouraï.
Enfin, il y avait du cyclisme avec le prix Roger Larocque.
À Ducos, un critérium qui se disputait ce matin pour toutes les catégories d'âge, un circuit qui est devenu traditionnel et qui plaît beaucoup aux coureurs. Ethan Dagremont du club VTT Passion s'est imposé chez les moins de 17 ans, on l'écoute.
Ça s'est bien passé, au début il y avait quelques accélérations mais ça allait, ça roulait, puis voilà.
Je vois que tu as été blessé récemment, c'est ça ?
Oui, je suis tombé jeudi sur piste. Au début, je pensais pas faire la course, mais ça allait, j'ai roulé un peu hier, puis aujourd'hui ça allait.
Ça a pas trop gêné pour aller chercher cette victoire aujourd'hui ?
Non, ça allait, j'avais un peu mal au dos sur la fin, mais c'est passé, j'ai gagné au sprint.
La victoire sur la course principale est revenue à Kéril Moutry devant Fabien Dumais et Grégory Lemaître. Louise Chavitz s'est imposée chez les féminines. On écoute Renato Portera, le président du VCC Mondor, organisateur de cette épreuve.
L'épreuve était prévue initialement le 20 mai, donc forcément reportée pour cause d'événements. Là, les coureurs, ils étaient demandeurs de compétition, donc j'ai relancé le prix Larocque, que des belles courses avec des beaux vainqueurs. Le club organise depuis de très nombreuses années le Grand Prix Larocque, qui est devenu une classique. Et donc du coup, ça va faire peut-être 5-6 ans quand on est sur Ducos. Et je crois qu'on va continuer ici, puisque vraiment le dimanche, déjà sur Ducos, il n'y a pas beaucoup de passages. Les coureurs sont vraiment en sécurité.
Les courses sur ce critérium organisé donc dans la zone de Ducos se déroulaient jusqu'à la mi-journée avec 54 participants en lice dans toutes les catégories.
Merci Mickaël Juneski. Et on passe tout de suite à la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Et on voit les couleurs du ciel avec vous, Maxime.
Exactement, bonsoir à tous. Cette nuit, l'Ouest retrouvera rapidement de belles éclaircies. Ailleurs, les averses resteront fréquentes et un coup de tonnerre sera encore possible en première partie de nuit, notamment sur le Nord-Est et au Loyautés. Des averses remonteront également sur le Sud et l'île des Pins. L'Alizé soufflera autour des 15 nœuds et se rapprochera localement des 20 nœuds sur le Sud-Ouest et l'extrême Sud, ainsi que la Pointe-Nord. Il mollira progressivement, par contre, sur le Nord-Ouest autour des 10 nœuds. Les températures minimales seront en baisse ce soir sur le sud-ouest et marée, autour des 17 à 20 degrés. Elles resteront plus élevées quand même ailleurs avec 20 à 24 degrés. Demain matin, l'Est et les Loyautés conserveront un risque d'averse sous un ciel nuageux. Ailleurs, le ciel restera bien présent, notamment sur la côte ouest, et le vent de sud-est sera de 15 à 20 nœuds avec rafales sur l'ouest autour des 30 nœuds en fin de matinée.